Armand Sylvestre, conte audacieux. Nécessité fait loi. On verra toujours sourire les gourmets sérieux quand de superficiels mangeurs devant eux parleront, avec enthousiasme, des volailles ridiculement étouffées dans la fadeur de leur graisse, qu'étalent à leur vitrine les marchands de curiosités culinaires. Ces victimes de la barbarie humaine, dont on a paralysé les ailes, crevé les yeux, gonfler le foie, amputer les génitoires, pour en augmenter le douloureux volume, ne sont pas faites pour charmer le palais des délicats. Combien ceux-ci leur préfèrent les oiseaux à demi sauvages, ayant à peine atteint une savoureuse adolescence dans les prés qui entourent les fermes bien tenues, qui rentrent seulement pour y dormir à la basse-cour, et s'en échappent de grand matin, courant dans l'herbe toute enrosée, et picorant les avoines tombées des lourdes charrettes. Dindon faisant la roue au soleil qui se lève, oie cherchant des capitoles de crottin, canards se ruant aux ornières mouillées, poulets qui ne connaissent pas les viriles voluptés, bien que munis de toutes leurs crêtes, bêtes libres, en un mot, dont la courte existence n'aura pas été, du moins, attristée par les captivités. Car c'est un fait que les animaux qui ont souffert par l'homme s'en vengent en étant détestables à manger. Ainsi les gibiers qu'on a forcés à la chasse. Comme toute institution sérieuse, la cuisine est basée sur un principe de morale. Les cannibales, qui s'y connaissent, le savent bien. Et ont-ils coutume d'entourer de prévenances et de sybaritiques attentions ceux de leurs prisonniers qu'ils destinent aux honneurs de la broche? C'est par un chemin de fleurs que ceux-ci arrivent à leurs utiles funérailles, dans le parfum des plantes odorantes dont ils seront intérieurement farcis. J'en reviens à mon dire. Le moindre poulet du Berry qu'on a laissé vivre au grand air, dans un décor frais de bois et de courantes rivières, fait meilleure figure, à la table des raffinés, que les phénomènes de la Bresse, dont la peau luisante éclate et se fendit sur un ruissellement d'huile animale, à la première caresse lointaine de la flamme, dans l'âtre où soupire la rôtissoire. Ceci n'est pas, au moins, pour diminuer le mérite des inventeurs et des mécaniciens, qui, pour l'engraissement artificiel des rôtis ailés, ont dépensé de véritables trésors de génie. Au premier rang de ceux-ci, le nommé Pamphile Olybrius, de Marseille, mérite certainement une mention spéciale et honorifique. Avez-vous admiré son appareil à l'exposition du Quai d'Orsay? Une merveille, et que je veux vous décrire par le menu du détail. Une façon de tour Eiffel dans laquelle le visiteur, j'entends loi destinée à l'expérience, pénètre par un escalier automatique. Un ascenseur qui doucement la dépose dans un des larges alvéoles où elle achèvera ses jours dans l'obscurité, sans autre distraction que de se plumer soi-même le dessous du cou à ses heures de loisir. Ce duvet, recueilli pour faire des édredons, dans des couloirs où il s'accumule, est déjà une cause de rendement considérable. Le reste du temps, l'animal prisonnier peut simplement passer le bec par un trou, d'où lui viendra extérieurement la pâtée. Encore ce bec ne peut-il s'engager que fort peu dans cette lucarne, juste assez pour tendre le gosier. Mais la merveille de cette épinette est que lorsqu'elle a atteint son maximum de grosseur, l'oie en prévient elle-même son bourreau, en faisant éclater une paroi comparable à la coquille d'un gros œuf, dont chacune de ses bottes est doublée. Il en résulte un bruit qui est le signal de sa mort. Tout cela n'est-il pas économique, ingénieux, propret et bien honorable pour l'imagination humaine? Une belle fille brune, à la tête embroussaillée de cheveux noirs, bien bestialement paysanne et inconsciemment féroce, ce qui est la même chose, se promène sans cesse sur une échelle circulaire autour du monument, montrant aux godelureaux et aux vieux friands la rondeur de ses mollets robustes. Un grand tube à la main, comme les arroseurs publics et comme les pompiers, elle va de pertuis en pertuis, versant dans les trous où se montre un gosier ouvert une façon de pâte farineuse, de bouillie épaisse, de revalessière insipide qui disparaît dans un avide claquement de bec. Ainsi les vendeuses d'amour détaillent-elles aux imbéciles et aux affamés du trottoir leurs baisers sans saveur et leurs infervantes caresses. Comment le malheureux Onésime Van de Pétas, gentilhomme des Pays-Bas, se trouvait-il, l'autre soir, enfermé dans l'enceinte de l'exposition, longtemps après l'heure où le coup de canon traditionnel en avait annoncé la fermeture. Comment, chose plus grave, courait-il effaré de ci, de là, regardant anxieusement derrière lui? Comment, circonstance aggravante encore, était-il absolument dépourvu de sa culotte? C'est ce que je vous dois dire et ce que je vous dirai. Sachez d'abord qu'il ne s'agit nullement d'une de ces vilainies intestinales, comme je n'en ai que trop souvent conté, mais d'une belle et touchante histoire d'amour, comme j'en veux toujours conter maintenant. Notre Onésime était amoureux fou d'une gitane, et avait eu le grand tort de le lui témoigner en lui jetant successivement des cigarettes, des gants, sa canne, son chapeau et son gilet, ce qui avait déjà simplifié notablement sa toilette et éveillé la juste susceptibilité du capitaine qui veille sur l'honneur de ces jeunes demoiselles. Les choses avaient été plus loin encore après la représentation. Le maladroit s'était laissé surprendre au moment où, dans une intimité plus grande et à la faveur de l'obscurité, il était en train de se défaire aussi de son pantalon. Le capitaine lui avait flanqué une chasse. « Ah, mes enfants !» L'agile grenadier eût dépassé facilement un lièvre à la course. Heureusement, le Hollandais était rusé et subtil. En rampant dans les taillis, en se faufilant dans les angles des monuments pour laisser passer son ennemi, toujours poursuivi d'ailleurs, il le dépistait depuis une heure, mais sans le lasser. Le joli pavillon de mon ami Charles Taucher, dont chacun sait les merveilles décoratives et qui semble une chapelle élevée à la gloire du nouveau Tiepolo, avait été un point stratégique particulièrement attaqué et défendu. Onésime avait failli y laisser, sinon sa peau, au moins sa chemise, dont tout un pan demeura aux mains de l'agresseur. Et nous nous plaignons, injustes célibataires que nous sommes, que nos blanchisseuses fassent de notre linge une aimable charpie. Cette absence de solidité de nos dernières toiles, grâce à l'abus des acides dans la lessive, est tout simplement la sauvegarde de l'adultère. Grâce à cette défaillance des tissus, nous pouvons imiter le lézard, qui, pincé par la queue, se sauve en la laissant aux doigts de l'ennemi. Ceci n'est pas un conseil que je donne, mais une simple métaphore que je soumets aux amants. Sauvé une fois encore, mais presque nu, le pauvre essoufflé avait fait un mouvement tournant fort habile autour des coulisses du théâtre des fantaisies, que garde, la nuit même, héroïque sentinelle, le fantôme glorieux de Paulus. Après cette diversion heureuse qui avait dérouté l'assaillant, il avait gagné le quai et les grandes halles, où sont accumulés tous les objets relatifs à l'alimentation. Une de celles-ci était demeurée ouverte par une distraction du gardien, dont je demande la grâce, puisque ainsi la vie d'un homme fut sauvée. Van de Pétasse, imprudemment sans doute, s'y engagea, toujours suivi par le chapeau à large bord du capitaine, lequel dessinait sur les hautes murailles toutes blanches de lune une course fantastique d'ombre, semblant les grandes ailes d'un papillon noir. Le péril était plus imminent que jamais. Instinctivement, le Hollandais, pour se faire plus petit, s'accroupit précisément au pied de l'appareil engraisseur automatique de Pamphile Olybrius, plus haut décrit. Le chapeau terrible approchait encore, secoué par la colère, agité comme la lanière noire d'un fouet. Fou de terreur, Van de Pétasse, apercevant l'ouverture inférieure de la machine, s'y glissa à reculons et le derrière en avant. Comme s'il eût été une simple oie, il fut immédiatement et mécaniquement humé, pour ainsi parler, par l'ascenseur qui, après lui avoir fait décrire un certain nombre de spirales, sans qu'il lui fût possible de se retourner, le déposa et l'enferma hermétiquement dans la plus grande case vide, pelotonnée comme un chat. Si bien que la gueule de son canon naturel se braquait juste, comme à une meurtrière, au trou destiné à mettre simplement en batterie le bec des oiseaux captifs. Aussi s'était-il évanoui dans l'ombre, comme par enchantement. Très désorienté, le capitaine avait fourré un grand coup de poing dans son chapeau à large bord et était sorti en jurant qu'il ferait sentinelle à la porte jusqu'au lendemain. Mais un troupier anamite, qui flânait par là, l'engagea à coups de crosse de fusil à réintégrer le domicile où les jolies gitanes dormaient avec des rêves d'éventail et de cigarettes dans leurs beaux yeux noirs fermés. La nuit parut longue à Onésime Van de Pétas. D'autant que, par sa posture elle-même, qu'il n'avait pu modifier, il se bouchait le jour à lui-même et n'eut qu'une vague appréciation des clartés sereines de l'aurore. Le réveil lui fut cependant donné par une bien stupide Diane. Au moment où il s'y attendait le moins, il se sentit pénétré par un lavement. C'était la brune, nourrisseuse d'oie, aux paupières encore lourdes de sommeil, qui mécaniquement, sans regarder, par le simple mouvement de l'habitude, lui baillait sa part de bouillie avec son tube, comme à ses autres pensionnaires. Comme tous les Hollandais, Onésime était naturellement susceptible, et cette familiarité le blessa presque autant que la grosseur inusitée de la canule. Mais le sentiment des convenances, vis-à-vis d'une femme, l'empêcha de faire aucune observation. Sa méditation n'en devint que plus douloureuse et mêlée d'une vague colique. Mais que faire? Le capitaine était peut-être toujours là, sous les larges bords de son chapeau. On gavait, toutes les demi-heures, les élèves du philanthrope Pamphile Olybrius. La seconde cuillerée de Revalessière, trop chaude d'ailleurs, faillit faire rendre gorge au malheureux. Mais le troisième clister, trop froid en revanche, lui parut plus amer encore. Il se sentait incapable de supporter une quatrième seringuée. Il fallait tout risquer, faire du tapage, demander grâce. Bon, on venait d'ouvrir les portes de l'exposition, et une foule considérable était déjà entassée au pied de l'engraisseur automatique. Tout à coup, le malheureux entendit des pas lourds sur l'échelle circulaire. C'était l'inventeur lui-même, Monsieur Pamphile Olybrius, qui faisait les honneurs de son invention au conseil municipal de son village, venu à Paris par un train de plaisir. La femme de Monsieur le maire était là, une grosse qui vous amenait ses 120 kilos aux balances publiques et dont le poids faisait crier horriblement les marches. Onésime ne se sentait plus une goutte de sang dans les veines. Si on allait le reconnaître, rien qu'au regard, il sentait par avance sa vue s'obscurcir. Eh bien, ce fut l'excès même de sa peur qui le sauva. Gonflé de la soupe postérieure qu'on lui avait insinuée avec la cuillère, que vous savez, et où dominait la poussière farineuse des haricots et des lentilles, avec une pointe d'anis, pour donner bon goût, il ne put, dans l'état surexcité où il se trouvait, retenir une bouffée d'artillerie qui s'en vint justement bouter ses fumées. La poudre sans fumée n'était pas encore dans le commerce. Au nez de Madame la mairesse, qui faillit s'évanouir de surprise en entendant sortir de cette boîte, d'apparence inoffensive, ce coup de canon. Maître Olybrius, qui tout à son invention crut que c'était une oie arrivée à point qui cassait, comme je l'ai dit, sa dernière coque, ouvrit immédiatement le casier. Ah, mes amis, quand apparut le derrière du malheureux Onésime, au lieu de la volaille succulente, ce fut un effarement du conseil municipal, qui crut à une mystification, et menaça le malheureux industriel de le précipiter au pied de son propre escalier. Mais Onésime avait retrouvé la parole, en même temps que la respiration et que le sentiment du jour. En deux mots très touchants, il narra son aventure. On le délivra. Et la femme du maire, qui était sentimentale, s'intéressa infiniment à lui. J'ai dit qu'elle était saine et abondante. Notre jeune hôte trouva dans son affection l'oubli des rigueurs de la perfide gitane. Il parle de se faire naturaliser français, pour ne plus quitter notre beau pays. Quant au capitaine, il s'est fait faire deux mouchoirs de poche, avec le pan de la chemise du Hollandais, qui lui était resté aux mains, et s'y mouche si furieusement que tout le monde autour de lui croit qu'il a un tonnerre dans le nez. Ses compagnes sont décidées, si cette infirmité s'affirme, à ne pas le ramener à Grenade.